Chers élèves, cher Jacques, monsieur Jacques, c'est une vraie joie de vous voir aujourd'hui parmi nous. Alors que vous êtes invités et attendus dans de nombreuses associations ou écoles, vous avez bien voulu nous réserver cette journée. Nous apprécions votre présence à sa juste valeur et sommes heureux de vous accueillir dans cette salle avec nos élèves pour approfondir un sujet qui sous-tend, qu'on le veuille ou non, notre pratique de yoga. Nous vous connaissons depuis une vingtaine d'années, depuis que vous nous aviez fascinés par la profondeur de vos enseignements sur la Bhagavad Gita. C'était au monastère du Yurtebiz. Pendant une semaine, vous nous aviez tenu en haleine en déroulant cette évolution incroyable de la pensée philosophique hindoue, aboutissant à l'extraordinaire dialogue mythique entre Krishna et Arjuna. Cette rencontre nous a marqués, Georgette et moi, au point de nous plonger intensément, depuis toutes ces années, dans une étude et une méditation, oserions-nous dire, permanente. Il faut dire que notre complicité a tout de suite été un peu forcée par les aléas de la vie. Vous aviez été rappelé à Bruxelles pour le deuil d'un proche et vous nous avez demandé, au pied levé, de meubler ce temps d'absence par une initiation aux techniques de yoga pour une trentaine de participants peu préparés à cette interlude dynamique. Nous gardons un excellent souvenir de l'intérêt curieux et de la bonne volonté que ces élèves d'un jour ont mis à pratiquer avec les moyens du bord. Voile ou soutane, robe de bure pour certains, n'étant pas le plus simple des équipements pour aborder les sadhanas. Depuis toutes ces années, nous participons à quelques-unes des belles rencontres que votre équipe, les Voix de l'Orient, organise à Bruxelles. Nous y avons connu le regretté Anand Nayak, que nous évoquons ici avec tendresse et affection. Lui qui illustrait si bien, à sa manière particulière, les histoires de son maître Anthony de Mello. Je m'adresse aussi particulièrement aux participants pour leur dire que tous et chacun sommes ici, consciemment ou non, des médiateurs et des transmetteurs. Car transmettre est la mission la plus naturelle qui soit. Et cette transmission existe dans tous les domaines de notre existence. Ainsi, ici et maintenant, prenons pleine conscience de ce que nous allons recevoir et partager, particulièrement sur un thème qui nous rassemble et nous tient à cœur. La transmission et la conscience qu'on a varie selon les âges de la vie. En commençant ma pratique en 1962, et Georgette 10 ans après, nous n'avions pas la moindre idée d'une implication à jouer un rôle dans la durée, puisqu'en fait aucun rôle n'a jamais été écrit. C'est au fil du temps et de la pratique, et aussi grâce à vous, à votre confiance, que cette belle aventure continue à se dérouler depuis plus de 50 ans. Tout à l'origine, il a fallu des éveilleurs, ces initiateurs que nous remercions. André Van Isbeth, qui a fait l'aller-retour Bruxelles-Liège juste pour inaugurer en 1965 la première séance d'un petit professeur débutant. Léon Deltour, le pionnier liégeois qui le premier entouré de ses élèves dont Gide, invita Schimmeich à Liège fin des années 60. Plus tard, il y eut la rencontre avec Michel Flack, qui a donné un grand élan au yoga dans l'éducation, alors que parallèlement, elle transmettait son expertise du yoga nidra. Et enfin, celui qui est devenu un ami, et que j'ai déjà évoqué, Anand Nayak, mort tragiquement en Europe. Il nous a tellement apporté sur le plan philosophique et humain. Tout ça pour dire, cher Jacques Schuer, combien nous sommes heureux que vous ayez accepté ce détour par recours pour nous transmettre, vous aussi, quelques clés de cet Orient indien qui a produit de si beaux fruits. Un Orient, pourtant, mis à toutes les sauces. La zénitude et le bouddhisme ont le vent en poupe. Mais les mots sont trompeurs. Et savoir n'est pas connaître. Connaître, naître avec. Votre formation, docteur en sciences indiennes, thèse Shiva dans le Mahabharata, licencié en théologie en Inde, en philosophie, professeur des religions orientales, hindouisme, bouddhisme, taoïsme, shintoïsme, vous avez séjourné en Inde et au Japon. Votre grande science des religions, vos responsabilités dans le cadre du dialogue interreligieux, celles aux voix de l'Orient à Bruxelles, votre impressionnante bibliographie font de vous l'interlocuteur le plus érudit, rare à ce niveau et pourtant d'une simplicité éclairante, et le plus modeste qui soit, qui puisse nous éclairer sur les liens subtils des filiations indéniables entre Inde, Bouddha et Yoga. Nous ouvrons tout grand nos oreilles à votre voix.
Autant de compliments ne rendaient pas la tâche plus facile. En tout cas, je vous remercie l'un et l'autre, et je vous remercie tous de cette invitation. Et donc, je me propose de parler un petit peu en deux temps, ce matin, et puis on verra comment la transition se fera dans le courant de l'après-midi. En deux temps, en ce sens que ce matin, je vais partager davantage de la situation de l'histoire de la civilisation indienne, de la société, de la culture indienne et de du développement de la pensée, de la philosophie, de la spiritualité dans le monde indien de façon très large, en plaçant le yoga dans tout un ensemble, dans tout un paysage. Et puis dans le courant d'après-midi, je passerai peut-être à une réflexion nous fera revenir davantage vers nous-mêmes pour voir un petit peu comment nous pouvons nous situer par rapport à cela et quelles seraient les différentes façons de nous situer par rapport à cela précisément. Ça fait peut-être au total deux siècles environ, c'est-à-dire pas très très longtemps, à l'échelle indienne deux siècles c'est peu de choses, à peu près deux siècles environ que l'Europe a commencé à s'intéresser à l'Inde, à découvrir un petit peu l'histoire indienne, les documents de cette histoire, à entrer lentement dans les corps de pensée de l'Inde. Début du 19e siècle, on voit les premiers intérêts, les premières publications, les premiers questionnements aussi au sujet de l'Inde, et bien sûr à ce moment-là, on avait très peu de moyens, très peu de documentation pour véritablement situer les choses, pour être capable de les interpréter, de les comprendre. Et donc deux siècles, c'est très court, et les choses se sont faites lentement, progressivement, avec un effort, soit par des Européens qui allaient séjourner en Inde, qui voyageaient ou qui séjournaient en Inde, soit pendant très longtemps, finalement, des gens qui, ici en Occident, notamment dans les universités, dans quelques universités, en Allemagne, en France, en Angleterre, mais aussi en Belgique. Il y a un certain nombre auteurs, un certain nombre de chercheurs belges qui ont marqué cette histoire. Donc il a fallu tout le 19e siècle pour qu'on se repère un petit peu et qu'on commence à entrevoir la complexité de cette civilisation indienne, des traditions, des écoles, des maîtres, des textes qui se sont succédés à travers les siècles en Inde. Donc tout un travail lent et qui est loin d'être terminé. Loin d'être terminé parce qu'on voit bien que dans les publications actuelles et dans les recherches actuelles, il y a encore des interprétations très différentes, il y a des manières de mettre des... Justement, on a parlé déjà de filières, de filiation, d'influence mutuelle, d'interaction entre toutes sortes de courants et d'écoles en Inde, et on voit qu'aujourd'hui encore, il y a des façons extrêmement différentes de les placer, de les situer les unes par rapport aux autres et de marquer ces influences. Essayer de retrouver les étapes, les strates, les couches qui se sont succédées depuis, on devrait dire depuis 3500 ans à peu près, puisque les textes de l'hindouisme, les textes védiques, les textes brahmaniques les plus anciens datent probablement d'environ 1500 ans avant notre ère, dans la forme où nous pouvons les atteindre aujourd'hui. Avant cela, il y avait encore des choses plus anciennes, probablement, certainement, mais nous n'avons pas vraiment de documentation pour remonter plus haut que cela. Mais déjà, 3500 ans, c'est pas si mal. Ça fait déjà pas mal de générations, plus d'une centaine de générations. Et donc, ça donne une idée de la profondeur, hein, de profondeur de champ, profondeur de temps dans laquelle il faut essayer de remonter petit à petit. Donc, tout un travail pour essayer de reconstituer les étapes qui se sont succédées, les couches qui se sont empilées, les interactions entre toutes sortes de courants, toutes sortes d'écoles, les influences des uns sur les autres, souvent des influences croisées, des influences réciproques, des influences mutuelles, avec une documentation qui, par certains côtés, est énorme, parce que l'Inde est l'une des civilisations qui nous a laissé le plus grand nombre de textes et de documents, la Chine aussi, bien sûr, hein. Et puis alors l'Europe, à partir de la Grèce, etc. Ce sont quelques-unes des civilisations qui nous a laissé la documentation la plus riche. C'est une bibliothèque entière de textes indiens qui sont parvenus jusqu'à nous, et en même temps, on sent bien que cette bibliothèque n'est qu'une petite partie de ce qui existait, que énormément de choses ont été perdues, énormément de choses ont été détruites, et en particulier parce que en Inde, dans le climat chaud et humide de l'Inde, les textes qui n'étaient pas recopiés régulièrement, parce que l'imprimerie est arrivée très tard, les textes qui n'étaient pas recopiés régulièrement, je dirais presque de génération en génération, eh bien, tombaient rapidement dans l'oubli. C'est-à-dire que les textes sur des supports végétaux, sur des feuilles de palmier, parfois dans le nord de l'Inde ou au Népal aussi, sur des écorces de bouleau ou des choses comme ça, on voit bien que ce sont des supports extrêmement fragiles, et que dans une civilisation, dans un climat chaud et souvent humide, ce qui n'est pas recopié de génération en génération disparaît très vite. Et donc dès qu'un courant de pensée, dès qu'une école, dès qu'un maître n'a plus assez de disciples pour suivre et reprendre ses enseignements, dès que les choses sont moins vivantes au niveau de l'oralité, de la transmission orale, eh bien, elles sont aussi bientôt abandonnées au niveau de la transmission écrite, et il ne faut pas beaucoup de temps pour que ce soit complètement disparu ou complètement oublié. Alors, dans toute cette histoire de 35 siècles à peu près, même si pour le yoga on ne va pas remonter 35 siècles, mais tout de même certainement 20 ou 25 siècles probablement, il y a des questions de chronologie qui se posent aussi. Je rappelle des choses bien connues, mais c'est pour, disons, reconstituer un petit peu le paysage, donner un petit peu le contexte. On sait qu'en Inde, on n'a jamais beaucoup, les Indiens n'ont jamais eu beaucoup la préoccupation des dates précises et des chronologies. Contrairement au monde chinois, par exemple, qui est souvent très attentif à des précisions de dates, Eh bien, dans le monde indien, non, c'est beaucoup plus flou. On vit dans des périodes de temps, je veux dire des périodes, des représentations du temps, hein, des représentations du temps qui sont tellement immenses que préciser les choses à quelques siècles près n'a pas beaucoup de sens. Vous savez que beaucoup de textes hindous et beaucoup de textes bouddhistes aussi dans le monde indien vont nous parler d'univers innombrables. Notre univers, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons apercevoir, c'est-à-dire tout ce qui s'étend, je dirais, jusqu'à la Voie lactée, en quelque sorte, hein, c'est pas peu de choses. C'est une petite goutte d'eau dans l'océan, ou, pour le dire autrement, et comme beaucoup de textes le disent, cet univers-là, c'est un grain de sable dans la vallée du Gange. Donc, il y a évidemment un nombre incalculable de grains de sable dans la vallée du Gange. Et notre univers, il y a notre univers, il est simplement un univers qui est à côté d'innombrables univers que nous ne pouvons pas voir, mais qui existent. Et non seulement dans l'espace, notre univers est à côté d'un grand nombre, d'un nombre innombrable, incalculable d'univers, mais chacun de ces univers, dans le temps, a été précédé par d'innombrables autres univers, et chacun de ces univers, dans le temps, sera suivi d'innombrables univers. De sorte que tous ces mondes qui se succèdent dans le temps et qui cohabitent dans l'espace sont en effet comme des grains de sable dans la vallée du Gange. Et évidemment, c'est tout à fait impossible de les énumérer, de les calculer, d'en faire en quelque sorte l'inventaire. Et donc, quand on vit dans cette façon d'aborder l'espace et le temps, qui par un côté d'ailleurs rejoint assez bien la vision que nous pouvons avoir aujourd'hui de l'univers à partir des sciences modernes, à partir de l'astronomie, de l'astrophysique, etc. Mais au fond les Indiens disent, les Hindous, les Bouddhistes disent ce que les sciences d'aujourd'hui, ce que l'astronomie, ce que l'astrophysique, tout ça nous montre ou nous enseigne aujourd'hui, rejoint assez bien ce que nous avons toujours pensé. À savoir qu'il n'y avait pas un petit monde bien stable, bien délimité, bien fermé sur lui-même, mais au contraire des dimensions de temps et d'espace absolument inimaginables. Et donc dans ces dimensions de temps et d'espace, eh bien, on ne se préoccupe pas trop, n'est-ce pas, de donner des dates précises à un texte, à un maître, à une école, à un gourou, parce que voilà, qu'est-ce que quelques siècles dans ces dimensions qu'on peut à peine se représenter ou qu'on ne peut pas se représenter. Donc que ce soit pour fixer des dates précises en chronologie absolue, comme on dit, hein, ceci daterait de telle année ou de tel siècle, etc., ou pour marquer des influences, des interactions en chronologie relative, est-ce que les Upanishads sont plus anciennes que le Bouddha et ont influencé la naissance du bouddhisme? Ou est-ce que les Upanishads sont plutôt contemporains du Bouddha ou même après le Bouddha? Et est-ce que ce n'est pas l'inverse? Est-ce que ce n'est pas le Bouddha et le bouddhisme qui ont influencé les Upanishads, etc., etc. Tout ce genre de questions restent en général très difficiles à déterminer. Et encore aujourd'hui, les historiens, les plus grands spécialistes, les spécialistes de la langue sanscrite ou d'autres langues de l'Inde ancienne, les archéologues, ceux qui pratiquent des fouilles sur le terrain, ceux qui travaillent plutôt sur le contenu des enseignements et de la philosophie, ont souvent des interprétations et des présentations, des reconstitutions. Il s'agit de reconstituer avec les moyens du bord, avec les documents que nous avons, ces documents qui sont tellement nombreux qu'on est un peu noyé, et en même temps tellement peu nombreux parce que la plus grande partie a disparu. Donc on ne sait pas s'il faut se réjouir que beaucoup a disparu parce qu'on n'en sortirait pas si tous les documents étaient encore là, ou au contraire déplorer parce que s'ils étaient là, ça nous permettrait de préciser des choses et d'être beaucoup plus rigoureux sans doute et beaucoup plus nuancé dans notre manière de comprendre les choses. Bon, enfin voilà, il faut travailler avec les moyens du bord, et ce que l'on voit, c'est que encore dans des publications toutes récentes de ces dernières années, je dirais depuis l'an 2000, donc toutes récentes, eh bien, très souvent, si on consulte différents auteurs, différents spécialistes, il nous donne des images qui sont parfois extrêmement différentes de l'ensemble et aussi de questions plus précises, par exemple sur les Yoga Sutras ou d'autres choses comme cela. Une difficulté supplémentaire aussi, c'est que très souvent les textes indiens, que ce soit les textes hindous, que ce soit les textes bouddhistes ou d'autres encore, parlent très peu des autres écoles. On a l'impression qu'ils présentent leur propre pensée, ils déroulent, ils développent leur propre réflexion, comme si rien d'autre que leur propre école n'existait, alors même qu'en réalité, si on creuse un petit peu, on se rend bien compte que, sans, la plupart du temps, sans nommer ceux qu'ils ont en tête quand ils sont en train de parler ou d'écrire ou d'enseigner, sans les nommer, sans expliciter les choses, ils parlent en fait parce qu'ils veulent répondre à telle autre école qui voit les choses autrement, ils veulent répondre à des objections qu'on a faites, ils veulent éclairer des difficultés qui viennent du fait que différents enseignements s'entrechoquent, différents enseignements se rencontrent et marquent des différences et des oppositions même, parfois des oppositions assez violentes. Très souvent, on ne dit pas les choses, on n'explicite pas les choses, mais en fait, on en tient compte tout de même. Et donc, reconstituer tout cela, identifier ceux auxquels on s'adresse sans le dire ou ceux dont on critique la pensée sans le dire, tout ça n'est pas toujours très clair, tout ça n'est pas toujours très simple. D'autant plus que dans pas mal de textes indiens, comme vous le savez, parfois on prend beaucoup de temps pour exposer des façons de voir, des enseignements, des interprétations qui ne sont pas celles que vous partagez, mais qui sont celles de gens dont vous allez après critiquer et réfuter les arguments. Mais les textes ne nous disent pas toujours clairement, ici s'arrête le moment où j'étais en train d'exposer la pensée de celui que je vais ensuite critiquer, et ici commence la critique qui va représenter ma propre pensée. Hein, de sorte que parfois en quelques phrases, ou dans d'autres textes, ça dépend de la méthode, au contraire sur plusieurs centaines de pages, on va avoir des successions d'arguments, des successions de présentations dans lesquelles on a de la peine à se retrouver. Est-ce qu'il est en train de dire ce qu'il pense, ou bien est-ce qu'il est en train de dire avec, de façon très claire, très complète, très structurée, est-ce qu'il est en train d'exposer la pensée d'une autre école que ensuite, n'est-ce pas, il va critiquer, ou que dans un autre écrit, il va critiquer. Donc cela, évidemment, ne facilite pas toujours les choses, mais au fur et à mesure qu'on entre un petit peu dans ces façons de voir, on se rend compte que même si la première impression est peut-être que chacun développe sa propre école, transmet la pensée de ses propres maîtres, etc., etc., de façon un petit peu isolée, de façon un petit peu solitaire presque, en réalité, la plupart du temps, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, on est influencé par d'autres, on fait déjà partie d'un débat qui a commencé avec d'autres, et on prend position ou on s'exprime de telle façon que ceux qui sont bien au courant, ceux qui partagent cette culture très complexe, comprennent probablement assez vite qu'il y a des oppositions, il y a des arguments, il y a des réponses, il y a des débats, il y a des discussions. Évidemment, aujourd'hui, après 1000 ans, 2000 ans ou plus, et a fortiori pour nous qui faisons partie d'une toute autre culture, qui parlons d'autres langues, et ainsi de suite, eh bien, on n'a pas toujours la capacité, évidemment, mais certainement pas tout de suite, de repérer tous les enjeux, de voir tous les sous-entendus, hein, de comprendre tout ce qu'il y a derrière et en dessous, je dirais, de ce que l'on dit, de ce qu'on exprime. Mais en fait, il y a presque tout le temps des interfaces, hein, si on veut utiliser ce terme-là, entre ce qu'on pourrait appeler l'hindouisme d'une part, le bouddhisme de l'autre. Il y a encore les Jains, le Jainisme, il y a encore d'autres écoles anciennes qui ont parfois disparu corps et bien, dont nous ne connaissons presque plus rien, parfois simplement le nom, l'étiquette, parfois quelques petits morceaux de citations qui ont été reprises par des gens qui étaient complètement opposés à ces écoles et qui ne faisaient que les citer brièvement pour ensuite mieux dire qu'elles se sont évidemment lourdement trompées, qu'elles étaient dans l'illusion et que c'est tout autre chose qu'il faut penser. Voilà, donc toutes sortes d'interfaces qu'il faut essayer de, de reconstituer en quelque sorte. Dans le temps et dans l'espace. Quand je dis dans l'espace, eh bien pour l'époque plus ancienne de l'Inde, c'est surtout l'Inde du Nord, bien sûr. Hein, c'est la vallée du Gange, en gros. Mais la vallée du Gange ou l'Inde du Nord, c'est déjà un territoire quand même relativement important, des distances assez longues, la possibilité d'avoir des régions qui ont chacune leur histoire, leur tradition, leur type de population, des langues relativement différentes, et ainsi de suite. Et donc, par exemple, dans la fameuse question de savoir est-ce que le Bouddha a été inspiré par les Upanishads, ou bien est-ce qu'au contraire, certaines Upanishads de l'hindouisme ont été influencées par le Bouddha ou ont voulu répondre à la naissance du bouddhisme, et comment est-ce que le yoga pourrait se situer entre l'un et l'autre, ou constituer encore un troisième pôle, une troisième tradition, etc., etc. Eh bien, un des facteurs dont il faudrait pouvoir tenir compte, et pour le bouddhisme en tout cas, je pense qu'on commence à pouvoir en tenir compte, c'est que les différentes régions du nord de l'Inde n'avaient pas nécessairement, à tout moment, les mêmes écoles, les mêmes milieux, les mêmes groupes de discussion, les mêmes façons de penser, pas tout à fait les mêmes langues non plus. Voilà. Et on peut penser par exemple qu'à l'époque du Bouddha, alors à l'époque du Bouddha, déjà ça c'est une première question, parce que les spécialistes continuent à discuter sur les dates auxquelles le Bouddha a vécu et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Hein. Enfin, disons en gros, certains tirent plutôt, c'est la tradition plus ancienne chez les historiens, tirer plutôt vers le 6e siècle. Le Bouddha aurait vécu par exemple entre 560 et 480, on dit souvent. Hein. On dit ça parce que la tradition indienne, la tradition bouddhiste, dit toujours que le Bouddha a vécu 80 ans. Ça, c'est la seule question sur laquelle il n'y a pas de discussion. Le Bouddha a vécu 80 ans. Bon, est-ce que c'est quelque chose d'historiquement prouvé, ou bien est-ce que c'est simplement le fait que la tradition a toujours dit ça? À la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance d'ailleurs. Hein. Mais donc, si vous regardez les dates dans des encyclopédies, dans des livres, vous verrez qu'il y a toujours 80 ans pour la naissance et la mort du Bouddha. Mais parfois, bon, on tire vers le haut, hein, 560 ou même 566 à 486. Alors, les chiffres précis comme ça, ça donne l'impression qu'on est sûr de savoir ce qui s'est passé, alors qu'en réalité, ce sont des calculs qu'on fait par rapport à d'autres événements plus récents qui eux-mêmes ne sont pas très sûrs. Et puis aujourd'hui, ben, il y a de plus en plus d'historiens qui poussent plutôt vers une date plus basse, une date plus récente, disons entre 500 et 420, ou entre 480 et 400. Ça n'a pas en soi énormément d'importance. Sinon qu'à cette époque-là, on peut penser que le Bouddha et les premiers compagnons du Bouddha et les premières communautés bouddhistes, les premières communautés que le Bouddha a rassemblées autour de lui, se trouvaient assez loin vers la vallée moyenne ou la vallée inférieure du Gange, donc assez loin vers l'est sur la carte de l'Inde du Nord, alors que les traditions des Brahmanes, traditions qui sont basées sur le Veda, les traditions dans lesquelles les grands sacrifices étaient célébrés par les prêtres brahmanes sur la base de ce qui est stipulé, de ce qui est recommandé dans la tradition du Veda, dans la tradition des prêtres brahmanes, tout cela était vivant, était plus organisé, plus structuré, probablement dans une région qui était encore plus vers le nord-ouest de l'Inde, c'est-à-dire vers la haute vallée du Gange, peut-être encore aussi la vallée de l'Indus, hein, qui est maintenant au Pakistan. Donc les régions du côté de Delhi, par exemple, étaient probablement plus centrales de la tradition proprement védique, brahmanique, de l'hindouisme ancien, alors que le bouddhisme, le jainisme aussi, l'autre grande tradition ascétique et monastique qu'on appelle les jains, le jainisme, sont nés plutôt plus vers l'est, du côté de Benares, de Patna, Et donc, ça peut quand même faire un millier de kilomètres, ou à peu près, entre les deux. Et donc, on ne doit pas nécessairement penser que tout ce qui se disait dans des petits cercles autour de tel ou tel maître, de tel ou tel penseur, de tel ou tel philosophe, et que nous trouvons aujourd'hui dans tel ou tel texte, du côté de, mettons, de Delhi, devait automatiquement être connu et bien connu et discuté et enseigné par des gens qui vivaient plusieurs centaines de kilomètres plus à l'est. Voilà. Donc, le facteur espace, hein, le facteur géographique, joue aussi un rôle là-dedans. Évidemment, si aujourd'hui je m'assieds dans une bibliothèque à Liège ou à Bruxelles, et que je prends deux livres avec l'un les textes bouddhistes et l'autre les textes des Upanishads, par exemple, je peux avoir, alors je dis ce sont deux textes indiens qui sont plus ou moins de la même époque, et donc je peux avoir l'impression que quand ces deux textes sont là l'un à côté de l'autre sur ma table, les gens qui ont rédigé oralement ce texte avec peut-être un petit cercle de disciples ou d'élèves autour d'eux, devaient nécessairement se connaître et être en conversation, alors que peut-être ils étaient à quelques centaines de kilomètres au moins les uns des autres. Donc il ne faut pas perdre, si vous voulez, toutes ces dimensions d'espace géographique et de temps aussi historique quand on essaye de situer un petit peu les choses. En particulier pour ce qui est donc finalement des Upanishads, alors je rappelle très rapidement donc, que les Upanishads sont considérés par les hindous comme faisant partie de la révélation védique, c'est-à-dire de cette parole éternelle, puisque le Veda, d'après les brahmanes et d'après les penseurs de l'hindouisme, le Veda est une parole éternelle, c'est une parole qui, comme ils disent, n'a pas d'auteur, c'est-à-dire elle n'a pas été composée par quelqu'un, elle n'a pas été rédigée par quelqu'un, elle a été bien sûr prononcée, on va voir comment, mais il n'y a pas vraiment d'auteur, et quand on dit pas d'auteur, ça veut d'abord dire ce sont des textes qui n'ont pas d'auteur humain, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un penseur, un philosophe, un gourou ou un maître qui a rédigé ces textes-là, mais quand on dit que ces textes n'ont pas d'auteur, on veut dire aussi, dans une bonne partie au moins de la tradition brahmanique, on veut dire aussi que ces textes n'ont pas d'auteur divin. Alors ça peut nous paraître un petit peu plus surprenant ça, parce que l'on dit bon, comment comprendre les choses, comment imaginer les choses, surtout si dans notre imaginaire ou dans notre culture, marquée par des traditions religieuses plus occidentales, plus occidental, ça veut dire proche oriental en réalité, c'est-à-dire du côté du judaïsme, du christianisme ou de l'islam, quand on pense au Coran, quand on pense à la Bible, et que l'on parle de révélation, on a cette représentation que ce sont des textes que l'on attribue à la divinité. Eh bien, le Veda, non, n'a pas d'auteur humain, mais n'a pas non plus d'auteur divin. Alors on peut se dire, bon, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment est-ce possible? Eh bien, les hindous, les brahmanes, les plus orthodoxes en tout cas, se représentent cela comme une sorte de parole, comment dirais-je, une parole impersonnelle, quelque sorte, une parole qui ne vient pas d'un sujet, qui ne vient pas d'un penseur, qui ne vient pas de quelqu'un qui la prononce. D'une certaine manière, c'est une parole qui n'est prononcée par personne. C'est une parole cosmique, une parole qui imprègne l'univers tout entier, qui est présente dans l'univers tout entier, et qui même, disent les textes, déborde de cet univers, est plus large que cet univers. Par exemple, dans certains passages très anciens du Veda, on va nous dire un quart de cette parole, on pourrait dire ce logos, ou ce verbe, pas cette parole universelle, cette parole cosmique, un quart de cette parole se trouve dans le monde et est diffuse, est présente partout dans le monde que nous pouvons voir. C'est-à-dire tout ce monde qui se trouve entre la surface de la Terre et la voûte du ciel, et les étoiles dans le ciel. Et les trois quarts, les trois autres quarts de cette parole sont encore au-delà. Donc c'est une manière de dire que cette parole dépasse l'univers tout entier, dépasse le cosmos tout entier, et elle n'a été produite par aucun être humain et par aucune divinité. elle existe par elle-même de toute l'éternité. Alors comment est-ce que nous pouvons la connaître? Vous connaissez, je pense, cette histoire-là. Eh bien, on se représente qu'au commencement de l'univers, il y a eu des sages, des voyants, comme on dit, des voyants, des rishis, hein, le mot rishi, qui est parfois encore utilisé pour certains sages en Inde aujourd'hui. Il y a des voyants ou des rishis qui ont eu, en quelque sorte, la perception de cette parole, l'intuition, la saisie directe de cette parole. Curieusement, on ne dit pas qu'ils ont entendu cette parole, mais qu'ils l'ont vue. Hein. Ce sont des voyants. Ils ont en quelque sorte vu, c'est-à-dire qu'ils ont eu la perception synthétique, intuitive, globale de cette parole, et ils ont été capables, parce que nous sommes parfaitement incapables de cela, hein, mais ces rishis, ces premiers êtres humains qui avaient une sagesse supérieure, ont été capables de formuler alors cette parole et de la transmettre à la génération suivante, et puis ça s'est transmis oralement, pendant à peu près 2000 ans sans écriture, hein, de génération en génération, de père à son fils, de maître à élève, de maître à disciple, pendant environ 2000 ans avant qu'on ne commence à utiliser l'écriture pour mettre cela, pour conserver et transmettre cela. Les Upanishads, donc, sont la couche la plus récente de cette parole védique. C'est ce qu'on appelle la fin du Veda, l'étape terminale, l'étape finale du Veda, la couche la plus moderne, si vous voulez. Mais la plus moderne, ça veut dire que les grandes Upanishads classiques, qui sont considérées comme faisant partie du Veda, de la révélation, datent environ du 7e siècle au 3e siècle avant notre ère. C'est-à-dire de toute cette période pendant laquelle on va voir le Bouddha aussi qui commence à proposer son enseignement. Donc c'est un peu contemporain. Je dis un peu contemporain parce que quand on parle de plusieurs siècles, ce n'est pas très très précis. Hein. Donc on pense que au moins deux ou trois Upanishads plus anciennes sont presque certainement plus anciennes que le Bouddha. Et puis d'autres ont été composées, sont apparus à l'époque du Bouddha, et puis d'autres encore, sans doute un peu après le Bouddha, pendant les premières générations des communautés bouddhistes. Et donc on a eu toute une période pendant laquelle il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'interrogations, dans toutes sortes de petits cercles en Inde, que ce soit des cercles au milieu de précotos, de prêtres et de penseurs brahmanes, c'est ce qu'on va appeler plus tard l'hindouisme, ou que ce soit autour du Bouddha, de disciples du Bouddha, de moines bouddhistes, pendant les premières générations, les premiers siècles du bouddhisme, et c'est ce que, bien sûr, on va appeler le bouddhisme. Parce que ces mots-là, hindouisme, bouddhisme, sont des mots relativement modernes, ce sont des mots occidentaux plutôt, hein, pour désigner des choses que l'on trouve en Inde, et que, bon, on aime bien parler de isme, pas christianisme, marxisme, freudisme, etc. Donc pourquoi pas hindouisme ou bouddhisme, alors qu'en Inde, la plupart du temps, on parle en particulier de dharma. Le dharma, c'est à la fois l'ordre des choses, hein, la façon dont la réalité se présente, la manière cohérente, la manière structurée, la manière ordonnée, dont la réalité, et quand je dis la réalité, c'est à la fois le monde qui nous entoure, le cosmos, l'univers, l'environnement, et puis aussi la constitution de chaque être humain, hein, avec toute la constitution très complexe de l'être humain. Quand on a des textes de yoga, par exemple, ou des textes de l'école Samkhya, qui est tout à fait proche du yoga, on sait bien qu'il y a beaucoup d'énumérations, on fait des énumérations, on fait des inventaires, on fait des analyses de tout ce dont l'être humain est composé, à la fois de sa dimension physique, physiologique, corporelle, mais aussi et plus encore dans ses dimensions de pensée, d'imagination, d'émotivité, de passion, de mémoire, de projet, etc. Tout cela, c'est la complexité de l'être humain, Et puis la complexité de la société humaine, pas simplement de l'individu humain, mais de la société humaine, avec en Inde, vous savez bien, tout ce système des castes, des classes, et toute cette hiérarchie selon laquelle la société est composée. De cette manière, on pourrait dire que le cosmos, le monde qui nous entoure, est un monde qui est hiérarchisé, qui a toute une série de couches, toute une série de strates, depuis les dieux les plus supérieurs, tout en haut, jusqu'aux enfers les plus profonds et aux habitants des enfers, toutes sortes d'esprits, de démons, de diables, de revenants, de défunts, de tout ce que l'on veut, qui se trouvent dans les couches inférieures du monde. Mais au niveau de l'individu, c'est la même chose. Au niveau d'un individu, il y a toute une série, n'est-ce pas, de strates, il y a toute une série de composantes qui sont étagées, hein, selon une certaine échelle, selon une certaine échelle de valeur, une certaine échelle de pureté aussi, selon une certaine hiérarchie. Et puis la société humaine, alors, avec justement la hiérarchie des classes et des castes, avec des échelles aussi de pureté, d'autorité, etc., est quelque chose de très complexe. Donc les Upanishads d'un côté, les premiers enseignements du Bouddha de l'autre, partagent un certain nombre de points communs, un grand nombre d'idées communes, de représentations communes, de notions communes, un certain nombre de mots, évidemment, qui sont communs, parce que c'est la même langue ou ce sont des langues assez proches, un petit peu comme si on avait des choses qui étaient en français, et puis en provençal, et puis en italien, et puis en catalan. Donc c'est à la fois différent et puis ça se ressemble tout de même. On peut repérer très facilement qu'il y a tout un bagage qui est un petit peu, qui fait partie de la culture de ce temps-là et de ce monde-là. Et en même temps, mais chaque école, chaque maître, chaque filière, si vous voulez, de tradition, de transmission, a des choses différentes aussi à dire. Alors, je vais peut-être évoquer rapidement, ou rappeler rapidement, quelques points sur lesquels il y a, à l'époque des Upanishads, donc je ne vais pas reparler beaucoup du Veda plus ancien, hein, de tous ces poèmes que l'on récite pour accompagner les offrandes que l'on fait à toutes sortes de divinités, mais surtout ce qu'on va trouver dans les Upanishads, c'est-à-dire dans ces textes qui sont plutôt des dialogues, ce ne sont pas des poèmes, ce sont plutôt des dialogues souvent, entre un maître et ses disciples, ou bien parfois des dialogues, ou des débats, ou des discussions serrées entre un penseur, un maître et un autre penseur, ou un autre maître qui vient un petit peu lui poser des questions, s'informer, mais aussi parfois lui poser des colles, ou essayer de le mettre en difficulté. Donc dans ces enseignements qui sont souvent sous la forme de conversation, hein, de conversation ou de dialogue, un petit peu comme on a dans la pensée occidentale avec Platon, avec Socrate et Platon, hein, c'est, les choses se passaient sous forme de dialogue aussi, ou bien un peu à la même époque, mais un peu plus ancien dans le monde chinois, vous savez bien Confucius, c'est aussi très souvent des petits morceaux de dialogue entre Confucius et des visiteurs ou des disciples ou des gens qui viennent lui poser des questions ou lui faire des difficultés. Bon. Donc la pensée progresse, la pensée s'approfondit, la pensée et puis aussi la mise en pratique, bien sûr, de cette pensée progresse dans l'échange, hein, dans le débat, dans la conversation, dans le dialogue entre soit un maître et des élèves qui entrent dans cette forme de pensée, qui font partie de la même école, soit des visiteurs ou des gens qui appartiennent à d'autres traditions et qui viennent un peu confronter leur propre pensée avec celle de ce maître particulier. Alors, parmi les choses qui se développent d'un côté dans les Upanishads de ce qu'on appellera plus tard l'hindouisme, de l'autre côté, chez le Bouddha et les premières générations de disciples bouddhistes, et on pourrait encore élargir du côté d'autres écoles, par exemple le jainisme, les moines jains, et peut-être aussi le samkhya et le yoga, quelques-unes des questions qui apparaissent et qui sont relativement communes, mais chaque fois avec des interprétations en partie différentes, chaque fois avec aussi des désaccords, des oppositions, des débats, c'est prendre position par rapport à la violence. Hein, le thème de violence, non-violence, est un terme qui est un thème, plutôt un thème et un enjeu qu'on va retrouver assez bien dans tous ces courants-là. Avec plus ou moins d'importance, bien sûr. Parce que dans le monde de l'hindouisme ancien, dans le monde des prêtres brahmanes, des prêtres appartenant à la classe brahmane, et qui avaient comme activité principale, peut-être, le fait d'apprendre par cœur les textes du Veda, les chants, les hymnes, les psaumes, pas dire par psaume, les psaumes en quelque sorte du Veda, et de les réciter dans les rituels, dans les sacrifices qu'ils offrent aux dieux, en présentant en même temps aux dieux des offrandes, des oblations, des victimes sacrificielles, la question de la violence se pose. Parce que une partie des offrandes, et une partie importante, des offrandes que l'on fait à toutes sortes de divinités hindoues, toutes sortes de divinités brahmaniques, surtout pour les sacrifices, les liturgies plus importantes, plus solennelles, c'est un animal ou toute une série d'animaux que l'on va immoler. Je rappelle très rapidement qu'habituellement, on immole des animaux domestiques, en tout cas principalement des animaux domestiques, donc des boucs, des béliers, des bovidés, des chevaux, ce sont les quatre grandes sortes de victimes que l'on offre aux divinités. Et puis le cinquième animal que l'on peut offrir aussi aux dieux, et qui est encore plus haut que ce que j'ai dit, le bélier, et puis les bovidés, et puis les chevaux, le cheval étant le grand sacrifice royal, c'est le cheval, le symbole, je dirais, de la vaillance du roi, du pouvoir du roi, de l'énergie royale, de la gloire aussi du roi. Bien, au-dessus du cheval, il y a encore un cinquième animal domestique que l'on peut offrir en sacrifice, d'après certains textes, pas beaucoup, mais certains textes quand même, c'est l'être humain. Alors, on pourrait faire un sacrifice humain, pas offrir une victime humaine. Alors, on pense que c'était une chose très, très rare dans l'Inde ancienne, probablement pas tout à fait inexistante, mais sans doute très rare, et que certains textes qui décrivent en détail le sacrifice humain ne sont probablement qu'une espèce de reconstitution un petit peu arbitraire, un petit peu, enfin je veux dire un petit peu factice, un petit peu théorique, une espèce de copier-coller du sacrifice du cheval. Donc on a de grandes descriptions de tous les détails du sacrifice du cheval, qui était le grand sacrifice solennel qu'un roi pouvait offrir. À partir de là, bon, on a démarqué ce texte-là, un peu copier-coller, si vous voulez, en le transformant sous forme d'un sacrifice humain, qui peut-être n'a presque pas existé, ou rarement existé, mais qu'on présente quand même comme le grand sacrifice. Alors pourquoi ? En un sens, pourquoi ? Parce que, et ça c'est très important, je crois que ça a beaucoup de sens, la victime que l'on offre en sacrifice n'est en réalité que le représentant ou, comment dirais-je, ersatz, n'est-ce pas, le remplacement de moi-même qui offre le sacrifice. Si vous voulez, la seule offrande qui est digne des dieux, c'est de m'offrir moi-même en sacrifice. C'est un peu facile d'offrir quelqu'un d'autre en sacrifice. Que ce soit un animal, que ce soit peut-être dans certains cas exceptionnels un autre être humain, hein, peut-être un prisonnier de guerre ou que sais-je, je ne sais pas très bien, ou bien même d'offrir des offrandes végétales ou des préparations culinaires, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'offrandes à partir de lait, de sortes de cahiers, de yaourts, de toutes sortes de gâteaux, de flans et tout ça, qu'on offrait à différentes divinités, mais peu importe le contenu de l'offrande, finalement, c'est un peu trop facile de dire « j'offre quelque chose d'autre que moi ». Bien sûr, ça peut représenter, comme on dit, un petit sacrifice. Parce que si j'ai un bélier, par exemple, et que je le tue, et qu'une partie de la viande est jetée dans le feu pour monter vers les dieux, ben, je dois faire le sacrifice de cette viande que je ne vais pas manger. Je mangerai le reste, évidemment, hein, ce qui reste, je vais le manger avec les autres personnes qui sont là, qui sont présentes, et qui vont participer à la cérémonie et participer à la fête. Les gens de la famille, des voisins, des invités. Bon. Il y a un petit sacrifice peut-être, mais enfin c'est quand même facile d'aller tuer un animal. Et de... Alors que la seule chose qui est vraiment digne des dieux et qui a du sens de ma part, ce serait d'une certaine manière de m'offrir moi-même. Mais bien sûr, la plupart des gens ne sont pas très pressés pas de s'immoler eux-mêmes en sacrifice. Donc, en un sens, et d'ailleurs certains textes hindous anciens le disent, le seul sacrifice qui serait vraiment logique et cohérent, ce serait le suicide. Ce serait de m'immoler suicide au sens de m'immoler, de me tuer moi-même, de m'immoler moi-même comme une victime offerte aux dieux. Mais la plupart des gens diront, moi je ne suis pas très pressé de faire cela. Il y a aussi le désavantage que c'est une chose qu'on ne peut faire qu'une seule fois. Donc on ne peut pas répéter toutes les grandes fêtes de l'année, du calendrier des fêtes et tout ça, la même offense. Et donc je préfère, en un sens, attendre le moment de ma mort. Et donc je ne développe pas ça, mais je le signale au passage, parce que ça montre bien la cohérence de la pensée. Hein. Au moment de ma mort, mon corps sera couché sur le bûcher funéraire, pour la crémation, pour l'incinération, et ce jour-là, il apparaîtra clairement quel est le sens profond de tous les sacrifices, parce que ce jour-là, ce sera mon propre corps, ce sera moi-même, qui sera brûlé sur le bûcher, et que la flamme du bûcher et la fumée du feu vont faire monter comme une offrande vers les dieux. Mais donc, toutes ces affaires de sacrifice qui étaient très répandues, qui étaient vraiment au centre de la préoccupation des brahmanes, je ne sais pas si c'était au centre de la préoccupation de tout le monde dans la population, hein, peut-être pas tellement, hein, mais pour les brahmanes, certainement, c'est ça qui était au centre de l'attention, c'est ça qui les intéressait, c'est ça qui les faisait vivre, c'est de cela aussi qu'ils vivaient d'ailleurs, parce que, évidemment, quand ils faisaient des grandes cérémonies, les gens les payaient pour faire ces grandes cérémonies. Donc pour les brahmanes, c'est ce qui était le plus intéressant, le plus important, ce qui était au centre de leur pensée. Et comme les brahmanes étaient les penseurs, les théoriciens, les gens cultivés, les textes que nous avons, ou la plupart des textes que nous avons, sont des textes qui ont été rédigés par les brahmanes. En Inde, la plupart des textes ont été rédigés par les brahmanes. Même les traités de droit, ou les traités de médecine, ou les traités de toutes sortes de choses, hein, qui sont des domaines qui nous paraissent sans rapport direct avec la religion, c'est quand même les brahmanes, parce que c'était la classe lettrée, la classe cultivée, qui les ont rédigés. Et je dirais même un grand nombre de textes bouddhistes, alors on va dire les bouddhistes, les gens qui sont sortis du système brahmanique, qui ne veulent plus entendre parler de la pensée des brahmanes, qui ne tiennent pas compte du Veda et des Upanishads, etc., etc. Oui, mais, un grand nombre de penseurs, de philosophes et d'écrivains bouddhistes sont des brahmanes qui se sont convertis au bouddhisme, des gens qui sont nés dans la caste des brahmanes, qui ont suivi toute la formation, les études et la culture des brahmanes, et qui sont devenus bouddhistes, se sont convertis au bouddhisme, ont abandonné l'hindouisme ou le brahmanisme, mais c'est toute leur culture hindoue dont ils se servent pour rédiger et pour transmettre les enseignements bouddhistes. De sorte que même quand on regarde du côté bouddhiste en Inde, on tombe continuellement sur des brahmanes. Alors, je reviens à la question de la violence. Donc, on a commencé à se poser des questions sur cette violence. Est-ce que j'ai le droit de mettre à mort des animaux ? Est-ce que j'ai le droit de prendre la vie d'un être vivant pour l'offrir en sacrifice? Et si on élargit les choses, alors est-ce que j'ai le droit aussi de tuer un animal pour manger de la viande, hein? Et puis, est-ce que j'ai le droit de faire la guerre pour défendre mon royaume et de tuer des soldats de l'armée ennemie? Vous savez que la Bhagavad Gita, c'est un dialogue entre Krishna et Arjuna sur le champ de bataille. au moment où la guerre va commencer, au moment où les hostilités vont commencer, et où le prince Arjuna, dont le dharma est de se battre, parce qu'il est né dans la classe, la caste des guerriers, donc c'est son devoir, c'est sa vertu, c'est son mérite, c'est son honneur de se battre, et cependant, il s'assied au fond de son char en disant « Non, je ne veux pas être responsable de cette guerre, je ne veux pas être responsable de ce massacre. » Il y a toute une réflexion sur la violence qui se met en route. Il y a cette réflexion sur la violence, on la trouve chez les hindous, en particulier avec ceux qu'on appelle les renonçants. Et ce sont des gens, des renonçants, qui vont dire « Je ne veux plus faire des offrandes, je ne veux plus offrir de sacrifices, je ne veux plus tuer l'animal qui va être offert en sacrifice. » Mais il va aller plus loin que cela, il va mettre en cause, il va critiquer fondamentalement, foncièrement, il va critiquer non seulement le fait de tuer un animal, mais même tout le système de l'action sacrificielle. Parce que, va-t-il dire, toute action humaine, tout karma, c'est le mot karma qui veut dire acte, action, hein, activité, travail, entreprise, donc c'est un mot qui est un mot de la vie quotidienne, de la vie de chaque instant, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, c'est un acte, une action, un karma, une activité, hein, eh bien, on va prendre distance aussi, non seulement avec la dimension violente de certains actes, mais on finira par se poser des questions sur le sens même de n'importe quel acte. Parce que n'importe quel acte, diront les hindous, diront les bouddhistes aussi, et on retrouve ça dans les textes de yoga également, n'importe quel acte est produit, est suscité, est inspiré par des désirs, par des besoins, par de l'attachement, par de la convoitise, et très souvent par de la rivalité, de la jalousie, de l'envie, de la colère, de la vengeance, ou bien alors de l'attachement passionné, de l'attachement à la richesse, au confort, à la gloire, à la réputation sociale, à tout ce que vous voulez. À l'époque des Upanishads du côté hindou, à l'époque du Bouddha du côté bouddhiste, on prend de plus en plus conscience que tous nos projets, toutes nos entreprises, tout ce qui est nos préoccupations et nos activités de tous les jours sont motivés par toutes sortes de désirs, toutes sortes d'attachements, toutes sortes de représentations dont les sages hindous d'un côté, les bouddhistes de l'autre, et bien souvent les textes du Samkhya et du Yoga aussi, vont dire ce sont des illusions. Et ce sont des choses qui nous entraînent dans le cycle du karma, dans les conséquences du karma. Et ces conséquences du karma, cette loi, comme on dit, ce cycle, cette roue du karma qui tourne, elle nous entraîne finalement dans la roue des renaissances, des réincarnations, dont on ne sortira jamais. Donc on est proprement désespéré de découvrir qu'on est pris au piège, que depuis le jour de notre naissance, nous sommes entraînés dans ce mouvement de désir, d'action et de conséquences de nos actions, qu'avant même notre naissance, eh bien, nous étions déjà la conséquence ou l'aboutissement de désirs, d'actions et de résultats de nos actions dans des vies précédentes, dans des vies antérieures, dans des réincarnations précédentes, et qu'au-delà de la mort, nous allons renaître comme être humain, ou comme animal, ou comme divinité, ou comme esprit, ou comme tout ce qu'on veut, en fonction justement de nos désirs, de nos actions et du fruit, des conséquences des désirs et des actions de toute notre vie et de toutes nos vies précédentes. Comment sortir de là? Comment se dégager de là? En d'autres termes, ce qu'on pose souvent comme question à l'époque des Upanishads et à l'époque du bouddhisme, c'est la question de la souffrance. Ça veut bien que le mot dukkha, hein, dukkha, souffrance, douleur, mais on traduit aussi, parce que ce n'est pas seulement la souffrance physique, hein, c'est même pas principalement la souffrance physique, ça peut être aussi la souffrance physique, mais c'est toutes les formes de souffrance mentale, de souffrance émotive, affective, de souffrance psychique. C'est le fait justement d'avoir ce sentiment d'être pris au piège, de tourner dans une roue dont on ne voit pas quand ça a commencé, comment ça a commencé, et on ne voit pas non plus quand ça pourra finir, comment ça pourra finir. Donc ce dukkha qu'on traduit parfois par malaise, ou mal-être, mal-être. En français on a le mot bien-être, donc pourquoi pas le mot mal-être, on l'utilise maintenant de plus en plus souvent dans les traductions françaises pour exprimer l'idée de dukkha, souffrance, malheur, douleur. Donc on est affronté à cette question de la souffrance. Et vous savez que les enseignements du Bouddha portent essentiellement sur, comme on dit, les quatre nobles vérités. Parfois on traduit les quatre vérités des nobles, c'est-à-dire de gens qui ont une pensée noble, de gens qui dégagent une pensée et un mode de vie pur à partir des réflexions qu'ils font. Donc l'enseignement du Bouddha, c'est les quatre vérités sur la souffrance, sur l'origine de la souffrance, sur la manière de se dégager de cela, sur la méthode pour sortir de cela. Bon. Mais si l'on regarde du côté des Upanishads, c'est assez souvent la même chose. Et si l'on regarde plus directement du côté de l'école Samkhya, vous savez bien que l'école Samkhya, c'est dans la tradition hindoue l'école qu'on met toujours ensemble avec l'école de yoga. Traditionnellement, on énumère très souvent dans l'Inde hindoue six grandes écoles de pensée, six grandes écoles de philosophie, ou comme on dit, six darshana, c'est-à-dire six vues, six visions, six points de vue, six perspectives, si vous voulez, différentes, et que ces six écoles, très souvent, vont deux par deux. Et que, en particulier, l'école qu'on appelle l'école de yoga va ensemble avec l'école Samkhya. Or, dans le texte fondateur de l'école Samkhya, que l'école de yoga va utiliser continuellement, va reprendre les catégories de pensée, va reprendre la manière de se représenter l'être humain, toutes les composantes de l'être humain, etc. Elle va reprendre ça, le yoga va reprendre ça à cette école Samkhya. Eh bien, l'école Samkhya aussi dit le point de départ de notre réflexion, c'est la souffrance. Et c'est le mot qu'ils utilisent aussi, le mot que les bouddhistes utilisent tout le temps. Et l'école Samkhya, non seulement comme les bouddhistes, part de la souffrance, mais je dirais comme les bouddhistes aussi, dit la solution pour sortir de la souffrance, la réponse à la souffrance, ou la méthode pour échapper à la souffrance, la douleur, le malaise, le mal-être, on ne le trouve pas dans le Veda. Voilà des gens qui, en général, étaient quand même des hindous, pas toujours peut-être les plus orthodoxes des hindous, mais c'est quand même des gens qui vivaient dans le monde hindou, qui étaient pénétrés de pensées hindoues, qui donc normalement auraient dû dire regardons du côté des Écritures, regardons du côté du Veda, regardons du côté de la parole révélée, pour savoir quelle est la réponse qu'elle nous apporte et la méthode pour sortir de la souffrance. Non, le Samkhya dit, vous savez, faire des sacrifices aux dieux, immoler des animaux, etc., etc., comme on a fait depuis des générations et des générations, c'est pas ça qui va nous aider à sortir de la souffrance. Et donc, d'une certaine manière, ils font des choses très proches de ce que le Bouddha lui-même faisait aussi. Parce qu'évidemment, le Bouddha aussi n'a jamais dit qu'il fallait regarder du côté des Vedas ou qu'il fallait écouter ce qu'enseignent les Brahmanes. Non, le Bouddha disait qu'il faut se regarder soi-même, s'observer soi-même, analyser notre propre comportement, notre propre manière de réfléchir, notre propre manière d'agir, notre propre manière de désirer, de projeter, et de voir comment cette loi du désir, de l'action et des conséquences de nos actions, cette loi du karma et cette loi des renaissances, des réincarnations fonctionnent en nous. Et quand on aura bien observé cela, et après tout la méditation pour les bouddhistes, c'est avant tout d'observer comment on fonctionne soi-même, La méditation, c'est avant tout d'être attentif et d'analyser avec beaucoup de précision, avec beaucoup de rigueur, la façon dont nous fonctionnons nous-mêmes au jour le jour, dans chaque geste quotidien, dans chaque action quotidienne, dans chaque entreprise quotidienne, pour voir justement ce qui cloche, ce qui fait mal, parce que ça adhère, parce que ça colle en quelque sorte, parce que ça nous arrache, ça nous fait mal. Et alors, découvrir par notre propre expérience, comme le Bouddha l'a fait le premier, découvrir dans notre propre expérience le début d'un chemin, le début d'une méthode qui va nous aider à sortir de là. Or, dans l'école Samkhya, dans la Samkhya Karika, c'est-à-dire dans les stances ou les strophes dans lesquelles on va exprimer cet enseignement de l'école Samkhya, dont une grande partie sera reprise, adaptée, développée par le Bouddha, et on dira aussi, tout provient de la souffrance. Notre point de départ dans la réflexion, c'est la question de la souffrance. Toutes sortes de souffrances. Il y a des souffrances physiques. Bon, je suis maladroit, je cours et je passe trop près du mur, mais je vais m'écorcher contre le mur. Ou bien il y a un animal sauvage qui peut-être m'attaquera lorsque je serai dans la forêt. Ou bien il y a une tuile qui va tomber du toit, ou des choses comme ça. Mais il y a aussi les souffrances, justement, comme je disais tout à l'heure, psychiques, mentales, affectives, émotives. Il y a les relations humaines, les relations sociales, qui ne sont pas toujours faciles à vivre, et dans lesquelles il y a beaucoup de tensions, beaucoup de déchirements, beaucoup de souffrances mutuelles que nous nous infligeons les uns aux autres. Et puis il y a des formes de souffrance dont on ne sait pas trop d'où ça vient, pourquoi tout à coup je tombe malade. Est-ce que c'est un esprit, est-ce que c'est une divinité qui m'envoie ça, et puis il y a peut-être un tremblement de terre, ou une éruption volcanique, ou un cyclone, ou que sais-je. Bon, à qui attribuer la responsabilité de tout ça, mais en tout cas c'est aussi des formes de souffrance. Donc il y a toute une série de causes de souffrance dont on fait l'énumération, on place cela de façon assez précise, et on dit, à partir de là, ce n'est pas les sacrifices que l'on peut offrir aux dieux qui vont nous sortir de là, ce n'est pas ce qui est contenu dans la parole védique, dans la révélation védique qui va nous sortir de là, mais c'est une analyse de ce que nous sommes nous-mêmes et de notre malfonctionnement, d'une certaine manière. Je rappelle que le mot « Samkhya » veut dire « énumération ». Si vous voulez, c'est un inventaire. Un inventaire. Un inventaire de tout ce que nous sommes au niveau physique, au niveau corporel, au niveau psychique, au niveau mental, au niveau de l'imagination, de l'affectivité, de l'émotivité, de la mémoire, de la volonté, de tout, bon, tout cela. Et très souvent, dans l'école Samkhya et dans le yoga à la suite de l'école Samkhya, on va distinguer 24 ou 25 facteurs différents, composants différents de ce que nous sommes globalement, de ce que nous sommes à la fois dans notre unité et dans notre diversité, dans notre... Voilà. Donc les bouddhistes d'un côté, certaines écoles hindoues, et en particulier l'école Samkhya et le yoga va suivre, vont travailler beaucoup par observation de soi-même, observation de notre propre fonctionnement, et des méthodes qui vont être mises au point génération après génération, en se basant sur l'expérience, en vérifiant ce qui marche et ce qui ne marche pas, et ce qui semble mieux adapté. Et le Bouddha et les écoles de yoga vont sans cesse utiliser des termes du genre ce qui est utile, ce qui est adapté, ce qui convient à la situation dans laquelle on est, ce qui permet de corriger des déséquilibres, ce qui permet de retrouver une certaine harmonie, et ainsi de suite. On aperçoit que l'heure passe et que le temps est déjà dépassé. Donc on va probablement interrompre ici pour le repas et un moment de détente. Si vous avez des questions ou des réflexions ou des demandes d'éclaircissement ou tout ce que vous voulez, on commencera par faire cela au début de l'après-midi avant de passer à d'autres étapes disons, de développement. Merci beaucoup pour votre écoute et à tout à l'heure.
Merci beaucoup.